Le fils aîné de Charles de Valois imaginait déjà les voiles gonflées des galères, les débarquements sur les côtes lointaines, les bannières, les cuirasses, le choc des lourds chevaux de France chargeant les infidèles, le croissant piétiné sous le fer des montures, les filles mauresques capturées dans le fond des palais, les belles esclaves nues arrivant enchaînées. Et sur ces grasses gaupes, rien n'empêcherait Philippe de Valois d'assouvir ses désirs. Ses grandes narines déjà s'élargissaient, car Jeanne la Boiteuse, son épouse, dont la jalousie éclatait en scènes furieuses dès qu'il regardait la poitrine d'une autre femme, resterait en France. Ah, elle n'était pas de caractère aisé, la sœur de Marguerite de Bourgogne. Or, il se peut qu'on aime sa femme et qu'en même temps, une force de nature vous pousse à en désirer d'autres. Il faudrait au moins une croisade pour que le grand Philippe osât tromper la Boiteuse. Mortimer se redressa un peu et tira sur sa côte noire. Il voulait revenir au sujet qui lui importait et qui n'était pas la croisade. « Monseigneur, dit-il à Charles de Valois, vous pouvez me tenir comme marchand dans vos rangs, mais je venais aussi quêter de vous. » Le mot était dit. L'ancien grand juge d'Irlande l'avait prononcé cette parole, sans laquelle aucun solliciteur ne récolte rien, sans laquelle aucun homme puissant n'accorde son appui. Quêter, demander, prier. Il n'était point besoin d'ailleurs qu'il en prononçât davantage. « je sais, répondit Charles de Valois. Mon gendre Robert m'a mis au fait. Vous souhaitez que j'intrigue pour votre cause auprès du roi Édouard. Or donc, mon très loyal ami. » D'un seul coup, parce qu'il avait quêté, il était devenu un ami. Or donc, je ne le ferai pas, parce que cela ne servirait de rien, sinon à m'attirer quelque nouvel outrage. Savez-vous la réponse que votre roi Édouard m'a fait tenir par le comte de Bouville? Oui, vous la savez, bien sûr, alors que la dispense pour le mariage était déjà demandée au Saint-Père. Quelle figure me donne-t-il? Vais-je aller maintenant lui demander qu'il vous restitue vos terres, vous rétablisse dans vos titres et qu'il chasse ces honteux des Spencer? Et que par là même, il rende à la reine Isabelle ma pauvre nièce, s'écria Valois. Je sais, loyal ami, je sais tout. Croyez-vous que je puisse, ou que le roi de France puisse faire changer le roi Édouard à la fois de mœurs et de ministre? Vous ne devez pas ignorer, toutefois, que lorsqu'il a envoyé l'évêque de Rochester pour réclamer votre livraison, nous avons refusé. Nous avons refusé de seulement recevoir l'évêque. Premier affront que je rends à Édouard en échange du sien. Nous sommes liés, vous et moi, monseigneur de Mortimer, par les outrages qui nous ont été infligés. Et si l'occasion nous vient à l'un ou à l'autre de nous venger, je vous fais foi, cher sire, que nous nous vengerons ensemble. » Mortimer, sans rien en montrer, sentit le désespoir l'envahir. L'entretien dont Robert d'Artois lui avait promis miracle, « Mon beau-père Charles peut tout, s'il vous prend en amitié, et il ne manquera pas de le faire, vous êtes sûr de triompher. » L'entretien semblait achevé. Et qu'en résultait-il? Du vent. La promesse d'un vague commandement dans 18 mois au pays des Turcs. Roger Mortimer songeait déjà à quitter Paris, à se rendre auprès du pape. Et si de ce côté-là il n'obtenait rien, alors il irait trouver l'empereur d'Allemagne. Ah, elles étaient amères les déceptions de l'exil. Son oncle de Turk les lui avait prédites. Ce fut alors que Robert d'Artois, dans le silence gêné qui s'était fait, dit « Cette occasion de la vengeance dont vous parlez, Charles, pourquoi ne la ferions-nous pas naître ?» Il était le seul à la cour qui appelait le comte de Valois par son prénom, n'ayant pas changé d'habitude depuis le temps où il n'était que cousin. Et puis, sa taille, sa force, sa truculence lui donnaient des droits qui n'étaient qu'à lui. « Robert a raison, » dit Philippe de Valois. « On pourrait, par exemple, inviter le roi Édouard à la croisade. Et là... » Un geste imprécis acheva sa pensée. Il était imaginatif, décidément, le grand Philippe. Il voyait le passage d'un gué, ou mieux encore, une rencontre en plein désert avec un parti d'infidèles. On laissait Édouard s'engager à la charge, puis on l'abandonnait froidement aux mains des Turcs. Voilà une belle vengeance. « Jamais !» s'écria Charles de Valois. « Jamais Édouard ne joindra ses bannières aux miennes. D'abord, peut-on même parler de lui comme d'un roi chrétien ? Ce sont les Maures qui ont de pareilles mœurs. » En dépit de cette indignation, Mortimer fut saisi d'inquiétude. Il savait trop ce que valent les paroles des princes et comment les ennemis de la veille peuvent se réconcilier le lendemain, même faussement, quand ils y ont intérêt. S'il prenait envie à Monseigneur de Valois pour grossir sa croisade d'y convier Édouard, et si Édouard feignait d'accepter... « Quand bien même le feriez-vous, Monseigneur, dit Mortimer, il y a peu de chances que le roi Édouard réponde à votre invite. Il aime les jeux du corps, mais déteste les armes, et ce n'est point lui, je vous l'assure, qui m'a vaincu à Shrewsbury. Édouard prétextera, et avec juste raison, les dangers que lui font courir les Écossais. » « Mais j'en veux bien, moi, des Écossais dans ma croisade, » dit Valois. Robert d'Artois frappa ses énormes poings l'un contre l'autre à petits coups. La croisade lui était totalement indifférente, et même, à vrai dire, il n'en avait aucune envie. Mais d'abord, il vomissait en mer. Sur terre, tout ce qu'on voulait, mais rien sur l'eau. Un nourrisson y était plus fort que lui. Et puis, il songeait avant tout à la reprise de son comté d'Artois, et une course de 5 ans au bout du monde ne ferait guère progresser ses affaires. Le trône de Constantinople n'était pas dans son héritage, et il ne lui plaisait en rien de se retrouver un jour commandant quel qu'il pelé dans des eaux perdues. Il n'avait pas d'intérêt non plus au commerce des épices, ni le besoin d'aller enlever des femmes aux Turcs. Paris regorgeait de houris à 50 sols et de bourgeoises qui coûtaient encore moins. Et Madame de Beaumont, sa compagne, fille de Monseigneur de Valois ici présent, fermait les yeux sur toutes ces incartades. Donc, cette croisade, il importait surtout à Robert d'en reculer le plus possible l'échéance. Tout en feignant de l'encourager, il ne travaillait qu'à la retarder. Il avait son idée en tête et ce n'était pas pour rien qu'il avait conduit Roger Mortimer à son beau-père. « Je me demande, Charles, dit-il, s'il serait bien sage de laisser longtemps le royaume de France dépourvu d'hommes, privé de sa noblesse et de votre commandement, à la merci du roi d'Angleterre qui montre assez qu'il ne vous veut pas de bien. Les châteaux seront pourvus, Robert, et nous y laisserons des garnisons à suffisance, répondit Valois. Mais sans noblesse, sans la plupart des chevaliers et sans vous, je le répète, qui est notre grand homme de guerre, qui défendra le royaume en notre absence ? Le connétable, bientôt sur ses 75 ans, et dont ces miracles qu'il se soutienne encore en selle, notre roi Charles? Si Édouard, comme nous le dit Lord Mortimer, se plaît peu aux batailles, notre gentil cousin s'y entend encore moins. Au reste, à quoi s'entend-il, sinon à paraître frais et souriant devant son peuple? Ce serait folie d'offrir le champ aux mauvaisetés d'Édouard sans l'avoir auparavant affaibli d'une défaite. Alors aidons les Écossais, proposa Philippe de Valois. « Débarquons sur leurs côtes et soutenons leur lutte. Pour ma part, j'y suis prêt. » Robert d'Artois baissa le nez pour ne point montrer ce qu'il pensait. On en verrait de belles si Philippe prenait le commandement d'une équipée en Écosse. L'héritier des Valois avait fait la preuve de ses aptitudes en Italie, où on l'avait envoyé soutenir le légat du pape contre les Visconti de Milan. Arrivé fièrement avec ses bannières, Philippe s'était si bien laissé manœuvrer et roulé en farine par Galeazzo Visconti qu'il avait tout cédé en croyant tout gagner et s'en était retourné sans même avoir livré la plus petite bataille. Roger Mortimer, pour sa part, parut quelque peu blessé par la suggestion de Philippe de Valois, car s'il était l'adversaire du roi Édouard, l'Angleterre tout de même était sa patrie. « Pour l'instant, dit-il, les Écossais se tiennent assez en paix et semblent décidés à respecter le traité qu'ils nous ont imposé l'autre année. « Et puis l'Écosse ! L'Écosse !» renchérit Robert. « Il faut passer la mer ! Réservons donc nos nerfs pour la croisade. Mais nous avons peut-être meilleur terrain pour défier ce bougre d'Édouard. Il n'a pas rendu hommage pour l'Aquitaine. Si nous le forcions à venir défendre ses droits en France, dans son duché, et qu'à cette occasion nous allions l'écraser... D'abord, nous serions tous vengés, et par surcroît, il se tiendrait au calme pendant notre absence. Valois tournait ses bagues et réfléchissait. Une fois de plus, Robert se révélait un conseiller avisé. L'idée était vague encore que ce dernier venait d'émettre, mais déjà Valois en apercevait tous les développements. D'abord, l'Aquitaine ne se présentait pas à lui comme une terre inconnue. Il y avait fait campagne, sa première grande campagne victorieuse, en 1294.
« Ce serait, à coup sûr, dit-il, un bon entraînement pour notre chevalerie qui n'a point vraiment guerroyé depuis longtemps, et un motif aussi pour éprouver cette artillerie à poudre dont les Italiens commencent à faire usage. Notre vieil ami Ptolomée s'offre à nous en fournir. Certes, le roi de France peut mettre le duché d'Aquitaine sous sa main pour défaut d'hommage. » Il resta pensif un instant. « Mais il ne s'ensuivra pas forcément combat d'armée, conclut-il. On négociera comme de coutume. Ce deviendra affaire de parlement et d'ambassade. Et puis, en rechignant, l'hommage sera rendu. Ce n'est pas une bonne cause. »
Robert d'Artois se rassit, les coudes sur les genoux et les poings sous le menton.
« On peut découvrir, dit-il, un plus efficace prétexte que le défaut d'hommage. Ce n'est pas à vous, cousin Mortimer, que je vais apprendre toutes les difficultés, chicanes et batailles qui sont nées de l'Aquitaine depuis que la duchesse Aliénor, ayant décoré de très fortes ramures le front de son premier époux, notre roi Louis VIIe, s'en fut, par son second mariage, porter son corps folâtre ainsi que son duché à votre roi Henri IIe d'Angleterre. Ni je ne vais non plus vous enseigner le traité par lequel le roi Saint-Louis, qui s'était mis en tête d'ordonner toutes choses avec équité, voulut mettre un terme à 100 ans de guerre. Mais l'équité ne vaut rien au règlement entre les royaumes. Le traité de 1259 n'était qu'un gros nid à embrouilles. Une chatte n'y aurait pas retrouvé ses petits. Le sénéchal de Joinville lui-même, le grand-oncle de votre épouse, cousin Mortimer, et qu'on savait si dévoué au Saint-Roi, lui avait déconseillé de jamais le signer. Non, reconnaissons-le tout franc, ce traité-là était une sottise. Depuis la mort de Saint-Louis, ce ne sont que disputes, discussions, traités conclus, traités reniés, hommages rendus, mais avec des réserves, audiences des parlements, plaignants déboutés, plaignants condamnés, révoltes dans le terroir et nouvelles audiences de justice. Mais quand vous-même, Charles, demanda Robert, se tournant vers Valois, avez été envoyé par votre frère Philippe le Bel en Aquitaine, où vous avez remis l'ordre de si belle façon, quel fut le motif donné à votre départ ?
Une grosse émeute qu'il y eut à Bayonne, où matelots de France et d'Angleterre en vinrent aux mains, et où le sang coula.
« Eh bien !» s'écria Robert. « Il nous faut inventer l'occasion d'une nouvelle émeute de Bayonne. Il faut agir en quelques lieux pour que les gens des deux rois se cognent assez fort et se tuent un peu. Et le lieu pour cela, je crois bien que je le connais. »
Il pointa son énorme index vers ses interlocuteurs et enchaîna.
Dans le traité de Paris, confirmé par la paix de l'an 1303, revu à Périgueux en l'an 1311, il a toujours été réservé le cas de certaines seigneuries qu'on appelle privilégiées et qui, bien que situées en terre d'Aquitaine, demeurent sous l'allégeance directe du roi de France. Or, ces seigneuries elles-mêmes ont en Aquitaine des dépendances vassales. Et jamais il ne fut tranché du cas des dépendances pour savoir si elles relevaient directement du roi de France ou bien du duc d'Aquitaine. Vous voyez ?
Je vois, dit Monseigneur de Valois.
Son fils Philippe ne voyait pas. Il ouvrait de grands yeux bleus et son incompréhension était si visible que son père lui expliqua.
« Mais si, mon fils, imagine que je t'accorde, comme si c'était fief, tout cet hôtel. Mais je m'y réserve franc usage et disposition de cette salle où nous sommes. Or, de cette salle dépend le cabinet de passage que commande cette porte. » Qui de nous a juridiction sur le cabinet de passage et doit pourvoir au mobilier et au nettoyage ? Le tout, ajouta Valois en revenant à Robert, est de trouver une dépendance assez importante pour que l'action qu'on y engagera oblige Édouard à soutenir l'épreuve. Vous avez, répondit le géant, une dépendance bien désignée qui est la terre de Saint-Sardos, laquelle est afférente au prieuré de Sarlat dans le diocèse de Périgueux. La situation en fut déjà débattue lorsque Philippe le Bel conclut avec le prieur de Sarlat un traité de pariage qui faisait le roi de France co-seigneur de cette seigneurie. Édouard le Premier en avait appelé alors au Parlement de Paris, mais rien ne fut tranché. Que sur la dépendance de Saint-Sardos, le roi de France, co-seigneur de Sarlat, place une garnison et entreprenne la construction d'une forteresse un peu menaçante, que va faire alors le roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine? Il va donner ordre à son sénéchal de s'y opposer et d'y envoyer garnison. À la première rencontre entre deux soldats, au premier officier du roi qu'on maltraite ou seulement qu'on insulte, Robert ouvrit les mains comme si la conclusion se ferait d'elle-même. Et Monseigneur de Valois, dans ses velours bleus brodés d'or, se leva de son trône. Il se voyait déjà en selle, à la tête des bannières. Il repartait pour cette Guyenne où, déjà 30 ans plus tôt, il avait fait triompher les armes du roi de France. « J'admire en vérité, mon frère, s'écria Philippe de Valois, qu'un si bon chevalier comme vous l'êtes soit instruit des procédures autant qu'un clerc. »« Bah, mon frère, je n'y ai pas grand mérite. Ce n'est pas par goût que j'ai été amené à m'enquérir de toutes les coutumes de France et arrêts de Parlement. C'est pour mon procès d'Artois. Et puisque, jusqu'à ce jour, cela ne m'a point servi, qu'au moins cela serve à mes amis. » Acheva Robert d'Artois en s'inclinant devant Roger Mortimer, comme si la vaste machination projetée n'avait d'autre motif ni d'autre but que de complaire aux réfugiés.
« Votre venue nous est d'une grande aide, sire baron, renchérit Charles de Valois, car nos causes sont liées, et nous ne manquerons pas de vous demander vos conseils très étroitement en toute cette entreprise que Dieu veuille protéger. Il se peut qu'avant longtemps, nous marchions ensemble vers l'Aquitaine. »
Mortimer se sentait dérouté, dépassé. Il n'avait rien fait, rien dit, rien suggéré. Sa seule présence avait été l'occasion pour les autres de concrétiser leurs aspirations secrètes. Et maintenant, on le requérait pour une guerre contre son propre pays, sans qu'aucun choix lui fût laissé. Ainsi, et si Dieu le voulait, les Français allaient faire la guerre en France au sujet français du roi d'Angleterre, avec la participation d'un grand seigneur anglais et en usant des subsides consentis par le pape pour délivrer l'Arménie des Turcs.